Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, qui est notre partenaire chaque semaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche en fin d'émission à 12h25, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
eh bien, je voulais vous parler de Michel Serres.
Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Chaque semaine, vous nous proposez la madeleine de, soit le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine?
Cette semaine, ce sera la madeleine de l'académicienne Barbara Cassin.
On vous écoute à 12h15 et nous allons nous intéresser à un ingrédient qui peut avoir le parfum de l'herbe fraîche, du citron ou de la pomme verte, le goût de l'artichaut, de la myrte, de la noisette ou d'un fruit vanillé. Elle répond au doux nom de pitcholine, manzanille, ascolana, grossane, et je parle sous le contrôle de nos invités qui me regardent avec des yeux éberlués. Va-t-elle arriver jusqu'au bout en le disant correctement? Bouteillant, aglando, arbequina, cornicabra, picoal, blanquette ou tanche, et je pourrais en citer bien d'autres encore. Le dicton ne dit-il pas, lorsqu'on fait la salade, celui qui met le sel doit être un sage, celui qui met le vinaigre un avare, celui qui met l'huile d'olive un prodigue. Place à l'huile d'olive.
À Mossane, on fait encore une huile d'olive qui s'appelle la fruitée maturée. Donc les olives, elles sont ramassées mûres et elles sont conservées quelques jours avant d'être broyées. Donc il faut goûter parce que c'est beau de parler de goût, mais en fait, tant qu'on l'a pas en bouche, on peut pas exactement comprendre ce que c'est le goût de la fruitée noire. Fruitée maturée, on dit maintenant, hein, parce qu'il y a des appellations pour tout, des noms. Il faut faire bien attention à ce qu'on dit, mais en tout cas, si là, on n'a pas le goût de l'olive, on l'a jamais. Hein. Voilà. Et ben pour moi, ça, c'est ma vie, ça. Enfant, j'allais dans un restaurant à Mossane, qui existe toujours, et je passais mon repas entier à saucer mon pain dans cette huile qui était à volonté sur la table. Voilà. Alors, ça va très, très bien à la saison qui commence. C'est l'huile de saison, là, parce qu'on va bientôt... On est dans la courgette, on rentre dans l'aubergine, on sera bientôt dans la tomate. Et ça, c'est une huile de l'été.
Eh bien, parlons-en de l'huile de l'été. Comme Julia Samut, de l'épicerie idéale à Marseille qu'on nous avait rencontrée avec Stéphanie Villeneuve lors de notre escapade de la semaine dernière. Bonjour Alexis Munoz.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Vous êtes élaïologue, c'est-à-dire né d'huile d'olive.
Élaïo-olive, donc je suis à la fois producteur...
Oléiculteur, ça c'est producteur.
Oui, on peut dire oléiculteur. Je presse des olives.
Bon, voilà,
je presse des olives. Je suis évidemment amené à les déguster parce que quand on aime l'olive, j'ai entendu Julia Samut, j'ai les poils qui s'hérissent.
Parce que pour vous aussi, c'est votre vie.
Elle le dit en plus avec une telle passion. Donc je suis dans le monde de l'olive et je fais tout ce que j'aime faire. Je vis dans cette poésie.
Vous venez même de planter quelques hectares, 70. D'habitude, c'est beaucoup plus petit, c'est plutôt une moyenne de moins de 5 hectares en France.
Je ne veux pas parler de quantité. Je n'envisage pas mon métier de production sans planter des arbres. On n'est pas obligé de le faire. Mais j'aime ce monde tellement que je me laisse un peu aller à planter des arbres, à accompagner des gens à vouloir en planter aussi. Donc je les aide là-dedans. Je presse des olives, je les déguste. J'adore déguster. J'aime beaucoup d'ailleurs... l'idée qu'aujourd'hui on puisse les mettre en avant comme ce que fait Madame Deschelette, tout me plaît dans cette profession.
On va la laisser répondre aussi, Madame Deschelette, elle est avec nous. Emmanuel Deschelette, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, pour vous aussi c'est une passion, vous allez nous en parler. Vous êtes sommelière en huile d'olive, vous avez fondé un festival, le festival de l'huile nouvelle, Olio Nuovo Day, dont la version estivale et la 5e édition aura lieu dans quelques jours pour le solstice d'été, 20 et 21 juin. Et vous êtes l'auteur ou l'autrice avec Leïla Mac de Extra Vierge, un tour du monde de l'huile d'olive édité chez Duno. Pierre Hiverna en avait fait sa chronique le 9 décembre dernier. Pour vous aussi, le monde de l'huile d'olive, c'est votre vie, votre passion. J'ai l'impression que l'huile d'olive, c'est d'abord un métier de passionné.
Enfin, c'est l'huile d'olive qui nous prend, en fait. C'est un petit peu comme la mer, je crois. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Moi, je suis arrivée sur le tard, il y a 6 ans, dans l'huile d'olive. Alexis Munoz, qui est à côté de moi, m'a accompagnée au début.
Lors d'un voyage en Toscane, vous avez découvert.
Alors, j'ai découvert l'huile d'olive lors d'un voyage en Toscane, voilà, pour expliquer ce qu'est Olio Nuovo Day, et cette idée de festival, un peu comme dans l'idée du Beaujolais Nouveau, hein, pour dire les choses simplement. J'ai goûté une huile d'olive en août, et le producteur m'a dit qu'elle était bien meilleure fraîche. Et j'en ai cherché à Paris, j'en ai pas trouvé, donc je me suis dit que j'allais créer le festival de l'huile d'olive nouvelle. Et dans quelques jours, en effet, puisque l'huile d'olive nouvelle est produite sur deux hémisphères, on a la chance de pouvoir avoir de l'huile d'olive fraîche en été qui vient de l'hémisphère sud.
Ça veut dire qu'il y a des saisons pour l'huile d'olive alors, Alexis Munoz?
L'olive est un fruit d'hiver. Alors ça paraît assez étonnant parce que les gens imaginent l'huile d'olive à l'été.
C'est l'été, là. On fait l'émission en juin, c'est pas pour rien.
On parle d'un fruit d'hiver et ce fruit d'hiver arrive à maturité globalement. Il existe beaucoup de variétés, plus de 1200, 400 dont on fait de l'huile à peu près autour du bassin méditerranéen et dans quelques, en effet, dans l'hémisphère sud. Mais on élève l'hémisphère sud, c'est une autre époque, donc c'est décalé. Mais chez nous, en tout cas, on produit sur l'hiver de octobre, on va dire, jusqu'à décembre, même janvier pour les pays du Maghreb. Donc c'est un fruit qui, déjà, se récolte en hiver. Deuxièmement, se presse en hiver en même temps qu'on le récolte. Et pour les gens qui se posent la question, ne se la sont jamais posée, une olive noire n'est pas une variété, c'est une olive verte qui a mûri.
Quels sont les pays producteurs d'huile d'olive? C'est vrai qu'on a l'idée que on a l'Italie, la Grèce, l'Espagne, les pays du bassin méditerranéen, pour le dire rapidement. Est-ce que c'est une idée reçue? L'huile d'olive, ça vient de partout?
Ce n'est absolument pas une idée reçue, puisque plus de 95% de la production mondiale provient du bassin méditerranéen. Mais dans Extra Vierge, ce qui m'a intéressée, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est ce qui n'est pas sur le bassin méditerranéen. Parce que vous avez aujourd'hui, comme vous parliez du nombre d'hectares, entre 20 et 50 hectares, c'est très courant au Brésil, en Afrique du Sud. Et je pense qu'il y a vraiment un avenir en Amérique latine et en Afrique.
Il y en a en Chine aussi.
En Chine, absolument.
Une variété, là, EZ8,
parce qu'en
qui
fait,
a débarqué dans les années 60 en Chine.
C'est la huitième génération, voilà, donc tout à fait. Et en fait, donc, pour revenir à ce qu'on appelle le Nouveau Monde, ce qui est intéressant, c'est que sur tout le bassin méditerranéen, vous avez l'aspect traditionnel, qui est intéressant puisqu'en fait ça apporte, sont des gens qui connaissent l'huile d'olive. Dans le Nouveau Monde, vous n'avez pas le poids justement de la tradition et vous n'avez des gens qui n'utilisent que des moulins modernes. Je pense que faire de la bonne huile d'olive aujourd'hui, les gens associent ça souvent à des images d'épinal, on voit des meules en pierre. Pour faire la meilleure huile d'olive, elle est faite avec des moyens techniques très sophistiqués.
Alexis Munoz.
Ces meules en pierre qui broyaient olive, pierre contre pierre, il y a un côté intéressant visuellement, mais c'était contre-productif sur le plan qualitatif dans les olives, parce qu'en fait, l'olive est un fruit, et que ce fruit, dès lors que vous le cueillez d'un arbre, s'oxyde. Donc, dans la mesure où il s'oxyde, vous devez aller déjà très vite entre la récolte et le broyage, et faire en sorte que dans le processus de fabrication, un moulin aujourd'hui ressemble à une cuisine en plus grand. Vous broyez de l'olive, toute l'olive, avec quelque chose qui pourrait ressembler à un blender en cuisine. Sauf que c'est des marteaux à l'intérieur, mais ça va très vite et on hache l'olive très vite et non pas lentement au contact de l'air et de la lumière comme avant avec la meule. On malaxe une pâte, ça pourrait être un mélangeur en cuisine pour lui donner une certaine homogénéité et commencer à séparer les solides des liquides. Et on extrait le jus, puisque l'huile d'olive est un jus de l'olive, ni plus ni moins.
Un jus de fruit, un vrai jus de fruit,
c'est
oui,
c'est important. On l'extrait dans quelque chose qui pourrait ressembler à un extracteur de jus que vous avez à la maison, une vis sans fin, horizontale, sauf que nous, il est un petit peu plus gros. Donc tout ça est en inox et tout ça respecte à la fois les notions d'hygiène et de nous limitons l'oxydation du fruit et du liquide.
Alors vous dites du fruit, hein. D'ailleurs Alexis Mignot, c'est important je crois parce que vous ne faites pas de mélange de fruits d'olive pour faire vos huiles. Vous avez, alors que la plupart des huiles d'olive sont vendues en étant les fruits d'assemblage de fruits, vous c'est monovariété, je sais pas comment.
Monovariétal. Ouais. Et d'ailleurs Emmanuel Deschlette qui a visité pas mal l'hémisphère sud, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit tout à l'heure quand elle disait que les gens qui ne vivent pas dans la tradition sont souvent les gens les plus objectifs. Je fais des huiles d'olive monovariétales parce que j'ai des convictions. La conviction, c'est de pouvoir amener un jus de fruits avec ce que l'on appelle barbaroman une typicité, c'est-à-dire un caractère de l'olive, de la variété, son goût, son arôme principal. Je ne fais pas de mélange parce que je ne veux pas standardiser avec mon voisin moulinier ou dans une région mes huiles d'olive. Et les pays nouveaux sont en effet plutôt enclins à faire des monovariétales. Ils vont chercher ces arômes. Ils essayent de réfléchir un petit peu au caractère des huiles d'olive qu'ils font. Donc je fais des huiles d'olive monovariétales pour principalement avoir un seul arôme, un seul goût, en tout cas identifiable pour quiconque, et aussi pour faire en sorte que le consommateur se positionne assez rapidement, qu'il dise j'aime ou j'aime pas.
Qu'est-ce que c'est une bonne huile d'olive, Alexis Munoz, pour vous, à partir de quoi définit-on la qualité de l'arbre, de la récolte, de la variété de l'olive?
Il y a quelques années, je vous aurais fait une définition très technique de ce qu'était la bonne huile d'olive. Aujourd'hui, et je m'appuie sur ce que je viens d'entendre tout à l'heure de Julia Samut, je dirais que la bonne huile d'olive, c'est celle qui vous plaît.
Mais on a quoi comme type de goût quand vous dites fruité vert, fruité mûr, fruité noir, c'est quoi les
goûts? Alors, il y a deux choses. Déjà, la variété, si vous prenez une variété chétouille en Tunisie, une picholine en France, une picoual en Espagne, elles vont vous donner des choses qui sont de l'ordre de l'amande, de la feuille de tomate, à l'artichaut. Chacune aura sa typicité, son goût, son arôme. Mais en plus, c'est la notion de maturité. Tout à l'heure, Julia a dit, j'aime beaucoup les fruités noirs. On nous a empêché de l'appeler fruité noir, d'ailleurs, aujourd'hui. Le fruité noir qu'elle aime, que je fais et que j'aime aussi beaucoup.
C'est une spécialité française?
Non, c'est une spécialité de tout le monde. Les Français se sont souvent auto-attribués des choses, on sait le faire. Non, c'est simplement l'idée qu'à l'époque, quand on cueillait des olives, il n'y avait pas de voiture, vous mettiez les olives sur des charrettes et vous descendiez au moulin une fois par semaine, que ce soit en Espagne, en France ou au Maghreb, ou au Liban, par exemple. Et les olives fermentaient sur la charrette. Donc, à l'époque, les vieux, je sais pas maître d'âge, n'avait pas l'habitude de goûter des super huiles d'olive techniques, vierges extra, avec des olives vertes qui étaient super bien récoltées et autres. Ils avaient l'habitude d'avoir quelque chose qui sentait l'olive noire. Et c'est resté une tradition dans certains pays, notamment au Maghreb. Et certains moulins, notamment Mossane Corni, dont elle parlait je crois tout à l'heure, l'ont réhabilité. Moi aussi je l'ai remis au goût du jour dans une région où on n'en fait plus du tout.
Alors, si je peux me permettre juste de en fait, pourquoi vous dites réhabilité? C'est que c'est considéré comme un défaut par le Conseil ou l'École internationale. C'est le défaut du chômage. C'est pour ça.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que vous avez de l'huile d'olive vierge extra, d'accord, qui a un taux d'acidité. C'est de l'acide oléique. Ça veut dire c'est un indice de fraîcheur qui ne doit pas dépasser 0,8.
C'est très faible.
Le goût à l'ancienne. C'est considéré comme un défaut puisqu'elle n'est pas vierge extra, elle est vierge.
Emmanuel Géchelette, vous parlez d'huile d'olive extra, huile d'olive extra vierge. Il faut que vous nous disiez rapidement quelle est la différence quand même et ce qui fait la bonne qualité d'une huile d'olive quand on veut l'acheter.
Alors une huile d'olive extra vierge, en fait, c'est une huile d'olive qui a été extraite parce que alors elle peut être pressée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise plutôt les machines modernes, donc c'est de l'extraction en fait avec des procédés mécaniques et en dessous de 27 degrés. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-dessus de 27 degrés, autrement les arômes en fait vont disparaître. Et donc le taux d'acidité, donc là, c'est un indice de fraîcheur qu'on calcule, ne doit pas dépasser 0,8%.
Donc plus l'acidité est faible, plus la qualité de l'huile est bonne.
Ne pas confondre acidité sensorielle et acidité oléique. C'est pour ça qu'on a enlevé ce terme des bouteilles, parce que le consommateur, le commun des mortels, avait tendance à amalgamer les choses.
De la même façon qu'il y a eu un temps, il y a quelques années, où on parlait de la première pression à froid,
c'est devenu l'extraction à froid. C'est-à-dire qu'on pressait à l'époque, dans le vieux moulin dont je vous parlais, c'était une première pression à froid. Aujourd'hui, nous faisons une extraction du liquide dans la pâte.
Alors, comme vous avez quelques liquides sur la table que vous avez disposés les uns les autres, on va vous laisser ouvrir les bouteilles et on va écouter la Madeleine de Natacha Trio.
Une huile d'olive, c'est comme une femme. Il faut savoir la choisir parfumée, subtile, délicate. C'est pas vrai?
Chère Natacha, on va donc écouter la Madeleine de Barbara Cassin.
Oui, c'est une Madeleine qui doit être très arrosée d'huile d'olive. Barbara Cassin, pour la resituer, c'est une académicienne qui est philosophe et philologue. Elle a reçu l'an dernier la médaille d'or du CNRS pour l'ensemble de ses recherches. Et sa Madeleine est un hommage au fond de placard, au fin de frigo. Le chroniqueur culinaire Jackie Durand de Libération pourrait parler de sa recette comme d'une recette j'y fous tout. Donc si vous ne savez pas quoi préparer ce dimanche, écoutez les astuces de sa maman.
Moi, ce que j'aime, c'est les riz poubelles. Alors, personne ne sait ce que c'est qu'un riz poubelle. Mais c'est ce que ma mère faisait le dimanche soir. À la fin du week-end, elle faisait un riz et elle mettait dedans tout ce qui restait. C'est pour ça qu'on appelait ça riz poubelle. Elle vidait le frigo pour pouvoir partir. Donc, la base, c'est du riz. Et puis, en général, quand on arrivait le vendredi soir ou plutôt le samedi matin, elle faisait un énorme ragoût, puisqu'on ne savait jamais combien on allait être, qui pouvait être, mais toujours délicieux, un ragoût de veau avec des fonds d'artichaut, un ragoût de poule. Et tout ça, c'était absolument délicieux. Mais plus délicieux encore, c'était les restes, c'est-à-dire la manière de dire au revoir à la maison, de se quitter tous en faisant un riz poubelle. Et donc dans ce riz, elle mettait tout ce qui restait, en général un peu de ragoût, il pouvait y avoir une tomate fraîche qui restait, il pouvait y avoir des herbes du jardin, etc. Et ça cuisait, c'était un riz relativement, c'était pas al dente, c'était plutôt comme un ragoût de riz. et c'est un souvenir formidable. Il y a toujours beaucoup d'aromates dedans. Quand c'est un riz fin, ça sent l'estragon ou le basilic. Quand c'est un riz un peu moins fin, ça peut sentir la cannelle, le curry. Voilà. Et donc, c'est des parfums. Mais je me souviens aussi des couleurs en même temps que des parfums. C'est-à-dire que ce n'est jamais des riz blancs, donc ça prend des couleurs. Et les couleurs sont en rapport avec le goût. La scène qui me revient, c'est que ma mère faisait la cuisine très tôt le matin. Et puis elle n'en parlait plus. Et on n'en parlait plus. Et elle faisait la cuisine au moment où moi, je prenais le petit déjeuner. Et je trouvais ça atroce. Pour moi, ça, c'est une scène de cauchemar qui est de prendre du pain, du beurre et de la confiture et du café au lait dans une cuisine qui sent l'oignon. Et puis, des épluchures partout, et etc. C'était une conjugaison de moments. Et ça, ça m'est resté comme un cauchemar culinaire, la conjugaison des moments. J'adore faire à manger quand il n'y a plus rien. Ça, je trouve ça un plaisir, une supériorité sur les obligations, sur les contraintes. Pouvoir encore avoir quelque chose de bon quand il n'y a vraiment plus rien, je trouve ça formidable. Et pour moi, c'est ça faire la cuisine.
Voilà la Madeleine de Barbara Cassin. Alors si on faisait un atelier dégustation avec les huiles que vous avez apportées, d'autant je crois qu'Alexis Mugnot, vous êtes capable de déguster à l'aveugle, c'est-à-dire de reconnaître d'où viennent les huiles, les terroirs, de savoir de quelle olive il s'agit. Environ 350 sur 420 huiles possibles, vous êtes capable de les reconnaître comme ça rien qu'en goûtant.
Aujourd'hui je passe plus de temps à planter des arbres qu'à déguster des huiles d'olive, mais on va dire que dans les principales, vous me sortez une souris du Samak Maki du Liban, une Chetoui, une Chemlali de Tunisie, une Cobranços au Portugal, une Picoale en Espagne, une Picholine en France, une Arauco en Argentine. Normalement, je sais les reconnaître.
Alors, on doit, je crois, Emmanuel Duchelette, pour pouvoir goûter correctement une huile d'olive, être capable de distinguer et d'apprécier le fruité, l'amertume et l'ardence, c'est-à-dire ce qui pique au fond de la gorge. C'est ça, Emmanuel Duchelette?
Oui, alors, l'huile d'olive, en fait, c'est quoi? C'est le fruité, donc c'est tout ce qui est olfactif. Donc, quand on déguste de l'huile d'olive, il faut donc la sentir. Ensuite, donc, en bouche, il y a effectivement de l'amertume. Et si elle est fraîche, sauf ou alors certaines variétés, par exemple, vous avez des variétés comme la Coratina ou même la Picoale qui sont très ardentes. Mais vous avez des huiles d'olive douces. Par exemple, comme on parlait du goût à l'ancienne, le goût à l'ancienne, on n'a pas le droit de dire le mot fruité parce qu'en fait, on casse la fraîcheur. Et donc, c'est pour avoir plus des arômes de cacao, de champignons. Donc là, il n'y aura pas de fruité dans le goût à l'ancienne.
Vous avez apporté deux bouteilles. De quoi s'agit-il?
Alors, j'ai apporté deux bouteilles parce que mon grand truc, en fait, c'est l'huile d'olive fraîche.
Nouvelle.
Donc là, j'ai apporté deux huiles d'olive du Brésil, une Domaine Prosperato. C'est un jeune homme, il a 25 ans. Il ne fait que ça depuis 5 ans. Il a passé son bac, enfin l'équivalent du bac, et maintenant, il ne fait que ça. Et il est incroyable.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette
huile-là?
Alors,
c'est une variété espagnol, justement, que j'aimerais bien qu'Alexis Mugnot la goûte parce que c'est de la picoale. Et qu'il me dise la différence, entre la picoale, puisque lui, il a une picoale, entre celle du Brésil et celle de quelle région elle est, la vôtre?
La picoale est une olive d'Andalousie. Et c'est en effet, sur les plateaux de San Juan, Mendoza, c'est l'olive avec l'arbequina que les Espagnols. Parce qu'en fait, les Espagnols sont
principalement... C'est les premiers producteurs mondiaux.
C'est les premiers producteurs mondiaux, mais.
Et en particulier l'Andalousie.
C'est le premier territoire de l'olivier au monde, avec la moitié de la production mondiale. Et les pépiniéristes espagnols développent beaucoup des solutions à l'extérieur, notamment dans les pays que visite Emmanuel Deschelette. Je pense à l'Argentine, je pense à l'Afrique du Sud. Et on retrouve beaucoup d'olives espagnoles. Et même dans les autochtones, dites autochtones, on se rend compte qu'en fait, ce sont des descendants d'olives espagnoles.
Oui. Avant que vous ayez perdu le goût de cette huile italienne que je vous ai fait goûter, comment parleriez-vous de cette huile? Est-ce que vous voulez être bonne déjà?
Alors, déjà, je peux vous dire que je l'aime. Parce que dès lors qu'elle crée quelque chose chez des gens, autant que la voix de Julia Samut qui en parlait tout à l'heure, elle me plaît. Je vous confirme que c'est une, excusez-moi du terme, typicité. C'est une huile d'olive en effet d'Italie, de Toscane, parce qu'on est vraiment dans ce genre de profil avec de la banane verte au nez. J'aime beaucoup le côté hédoniste d'une huile d'olive. Donc là, on a en effet un caractère, un profil d'huile d'olive avec Cette banane verte, principalement, qui est assez typique de cette région, c'est un assemblage de au moins deux olives. On le perçoit en bouche parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus large. Il y a quelque chose d'un petit peu plus farineux, mais qui est imperceptible pour le commun des mortels. Mais en tout cas, c'est une très belle huile d'olive qui va bien sur une tomate mozzarella.
On sait quand même que, depuis quelques mois déjà, qu'une huile sur deux vendue dans le commerce est non conforme à la loi selon la répression des fraudes. En particulier, ce qui est affiché sur l'étiquette ne correspond pas à la réalité. Est-ce que sur cette huile, dont on ne va pas donner l'étiquette, elle est simignose, mais rien qu'en la goûtant, c'est une bonne huile?
Elle vient d'Italie, elle est tout à fait correcte.
Bon, elle est validée, estampillée, bonne pour les simignoses. Est-ce que dans la cuisine, vous diriez que l'huile d'olive sert de base ou sert d'ingrédient? C'est à part entière. Manuel Duchelet.
C'est vraiment un terrain de jeu et effectivement, donc, autant le goût à l'ancienne que le fruit est vert, il faut avoir plusieurs huiles d'olive chez soi, acheter plutôt des petites bouteilles.
Pour la consommer rapidement. Ça ne se bonifie pas comme le vin.
Et surtout expérimenter. C'est pour ça qu'il faut acheter des petites bouteilles et justement découvrir d'autres sensations. Parce que ce sont des sensations. Voilà.
Alexis Bignoz, pour revenir à la question de la cuisine, ingrédients ou base, l'huile d'olive doit s'adapter en fonction du plat qu'on veut faire. On n'est pas obligé de mettre une huile trop verte si on veut la goûter avec une mousse au chocolat comme le fait Emmanuel Duchelet, ou si on veut la mettre sur des tomates mozzarella.
Déjà, l'huile d'olive n'est pas l'alpha et l'oméga de la gastronomie, soyons clairs. En tout cas, pas en France. Il y a des chefs, des cuisiniers, je passe beaucoup de temps avec eux, qui, en effet, ont la sensibilité à l'huile d'olive. Je pense à Anne-Sophie Pic, par exemple, qui considère ça vraiment plus comme un ingrédient que comme un condiment. En effet, chaque huile d'olive va dépendre, la maturité notamment, va dépendre à la fois des goûts, mais aussi des plats et aussi des humeurs. Vous êtes en été, vous avez envie d'un côté solaire, tomate, mozzarella, ou des choses qui vous rappellent un peu la mer et autres. Une huile d'olive fruitée vert, c'est-à-dire avec ce piquant, cette amertume, vous plaira. En hiver, quand on commence à sortir les légumes d'hiver, les panais, les topinambours, les butternuts, il faudra quelque chose d'un petit peu plus réconfortant, un petit peu plus mûr.
Là, vous en avez 5 de votre fabrication, de votre culture, la
18.1.
18.1. Alors, il y a 2 points, mais c'est donc 18.1. Alexis Munoz, en ce moment, là, donc il y a une picoile ou une cornica brale. Laquelle prendriez-vous pour avoir cette dimension réconfortante?
Alors là, on n'est pas trop dans le réconfortant en ce moment. On est plutôt à se mettre en maillot de bain et à manger des salades. Donc, on aimera bien les choses qui sont très toniques, très vertes.
C'est ni l'une ni l'autre.
Par exemple, la tonique, qui est ou la picoile, qui est une olive espagnole que nous a ramené Emmanuel Deschlette de l'hémisphère sud. Elle est très connue pour des arômes de pédoncules de tomates, de feuilles de tomates, évident. Le commun des mortels pourrait la reconnaître au milieu de 10. Là, on ne l'a pas. On a quelque chose de très vert, qui est plus proche d'une olive qu'on a pressée, on pourrait même avoir ça sur une arabekina. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des fruités verts. Le fruité noir ou mûr, tout simplement, on peut l'utiliser maintenant, il n'y a pas de souci. La preuve, c'est que je vous parlais tout à l'heure d'Anne-Sophie Pic, sa déclinaison de tomates Puriel, que vous mangerez à la carte cet été, sera faite avec le fameux fruité noir. D'ailleurs, donc on peut le mettre aussi en été, mais c'est plutôt un hiver.
Il revient ce fameux fruité noir.
Oui, en fait, c'est-à-dire que je pense que ce que dit Alexis Munoz, c'est vrai que les chefs aiment beaucoup jouer. Moi, je sais qu'il y a certains chefs qui ont une sensibilité à l'huile d'olive et effectivement avec le travail de producteurs qui font des choses exceptionnelles. Moi, je sais que Julien Dumas, lui, adore l'huile d'olive du Japon. Il aime l'huile d'olive française et du Japon parce que ce sont des choses qui sont très délicates. Ce goût, la fruité vert, ça lui plairait pas du tout.
Parlons de vous pour terminer l'émission et pendant que je tiens 2 petits gobelets d'huile d'olive du cru d'Alexis Munoz et Emmanuel Deschlet, je vais les goûter juste après l'émission. Est-ce que vous nous donneriez votre recette de mousse au chocolat à l'huile d'olive qui est peut-être une madeleine chez vous, je ne sais pas. C'est ce que vous aimez particulièrement.
Oui, alors, c'est avec du fruité vert. L'idée m'est venue en Espagne. Donc en fait, pour le goûter des enfants, c'est du pain grillé avec de l'huile d'olive.
Quand même rien de meilleur que le pain grillé.
Pain grillé, l'huile d'olive, chocolat râpé et des petits copeaux de sel. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ma mousse au chocolat avec un tout petit peu de sel et ce fruité vert, justement, pour donner un peu du peps au chocolat, pour balancer ce côté régressif.
Bon, allez, on va continuer de déguster ces huiles d'olive que vous nous avez apportées. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir participé à cette émission, Alexis Munoz. Vous fournissez quelques grands chefs, mais le Kidam, où peut-il se procurer vos huiles? On les commande sur Internet?
On peut les
chercher chez vous?
Je suis
moulins.
Plus en cuisine que dans les magasins, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être regardé par des magasins. Et à Paris, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes à les commander. Et en effet, vous avez un truc qui est génial qui s'appelle Internet.
Emmanuel Diochelette, extra vierge avec Leïla Mac, l'huile d'olive, recette de grand chef et histoire d'homme. Tout savoir sur l'huile d'olive, c'est magnifique, avec plein de recettes en plus dans la deuxième partie de ce livre. Un voyage autour du monde, édité chez Duno. Merci beaucoup à tous les deux, mais surtout, pendant que nous goûtons, nous allons écouter la petite chronique de la cerise sur le gâteau. Donc, nous allons écouter la cerise sur le gâteau de Pierre Hébert. Pierre Hiverna, c'est l'heure de votre chronique, la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, vous aviez envie de revenir sur la disparition le 1er juin dernier du philosophe Michel Serres.
Eh bien oui, Caroline, parce qu'on ne le sait pas trop, mais il s'est beaucoup intéressé au sujet de l'alimentation des hommes. Et surtout, c'était quelqu'un qui était peu enclin au « c'était mieux avant ». Alors évidemment, ces dernières années, il s'est posé une question fondamentale sur l'avenir d'une planète qui devra, d'ici une trentaine d'années, nourrir plus de 9 milliards d'individus. D'abord, le philosophe a exprimé son admiration sans fin pour ceux qu'il appelait les pères nourriciers de l'humanité, c'est-à-dire les agriculteurs. Il soulignait notamment, je le cite, que « jadis, agriculteur, ça voulait dire ignorant, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier qui ne requiert un aussi grand savoir, un métier qui demande une perception de la vie, de la nourriture, de la reproduction, de la domestication et des compétences techniques comme économiques. » Et le philosophe de résumé, aucun professionnel ne lui est comparable. Mais si Michel Serres avait cet immense talent d'observateur dans le champ de la sociologie, il a développé, pour ce qui concerne l'alimentation des hommes, des bases qui relèvent de l'économie politique. Et pour cela, il est parti d'une première observation. L'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en plein prélude à une mondialisation du commerce fondée sur le libre-échange, avait admis un régime juridique d'exception pour certains produits culturels, en particulier pour les films et pour les trésors nationaux. Beaucoup plus tard, dans les années 90, vous vous souvenez sûrement, Caroline, des quotas audiovisuels, âprement défendus à Bruxelles, notamment par le gouvernement français, et qui étaient finalement fondés à partir de la même question. Peut-on appliquer les mêmes règles de libre circulation des biens et des marchandises à des biens culturels? Et c'est à ce moment-là que s'est largement répandu le concept d'exception culturelle.
Et cette exception culturelle, comme d'ailleurs la notion de bien culturel, s'adapte bien évidemment à la nourriture, puisque la nourriture, comme chacun le sait, fait partie de la culture, non?
Eh bien exactement, Caroline. Et c'est précisément la notion d'exception agricole que Michel Serres et ses proches ont proposé. En gros, pour poursuivre le parallèle, le fait que le monde entier ait accès aux mêmes séries télévisées n'assure en rien la culture de chacun. Et si la protection de la diversité des expressions culturelles est une nécessité et un droit universel, celle de la biodiversité agricole en est également une. Michel Serres exprimait la chose de cette manière. Opposant des obèses à des nouveau-nés mourant de faim, le monde souffre aujourd'hui d'une injustice majeure concernant la nourriture. Il est donc de nécessité vitale, de justice politique et morale, mais aussi d'urgence historique, d'établir une exception agricole. Et bien sûr, on lui a beaucoup posé la question de l'urgence en politique. Et sa première réponse portait sur une action précise, pour lui à la fois fondatrice et réaliste. Sortir les biens agricoles de première nécessité, dont le blé et le riz, du système boursier qui gouverne leur économie. Voilà, Caroline, les élections européennes sont désormais derrière nous et, sauf erreur, aucun mouvement politique n'a encore inscrit cette proposition à son agenda.
Merci Pierre Hiverna, c'est une chronique qui vient s'ajouter naturellement aux nombreux hommages que nous avons rendus à Michel Serres sur cette chaîne et donc on retrouvera votre chronique sur notre site internet. Merci. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Clément Daté, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Witzmann.